Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Galère 88.4 pour une nouvelle émission du Livre Ouvert. Nous allons parler aujourd'hui du corps et de l'altérité dans la littérature de voyage à travers divers territoires et sur plusieurs époques. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Mougin, Anouchka Stevelia Moussavou Niama et Silvio Florio, tous trois doctorantes et doctorants au Centre indisciplinaire d'études des littératures d'Aix-en-Provence, communément appelé le CIELAM. Stevelia, nous allons commencer avec toi. Bonjour.
Bonjour Mathilde.
Tu écris une thèse sur la reconstruction de la mémoire au féminin chez Assia Djebar et Leonora Miano. Tu analyses le rapport histoire-fiction, ton approche est post-coloniale et tu t'intéresses particulièrement aux questions de genre, de mémoire historique, de mobilité et d'identité. Tu es aussi membre du collectif Migration et Altérité, que je vous invite à aimer sur la page Facebook, puisque moi-même aussi j'en fais partie. Alors tu vas nous parler des Nuits de Strasbourg, roman de Djebar qui est sorti en 1997. Alors ce livre raconte, ça se passe en 1989, et ce livre raconte l'histoire de Telja, une jeune Algérienne qui abandonne son époux et leurs enfants, en Algérie pour aller poursuivre des études à Paris. Et là-bas, elle fait la connaissance de François, qui est un Français d'Alsace plus vieux qu'elle. Il est âgé de 50 ans. Et entre eux, naît un amour que Telja choisit de concrétiser uniquement dans la ville de Strasbourg.
C'est exact.
Donc peut-être que tu peux commencer par nous parler du livre ou du contexte de l'œuvre.
Merci Sabine. Tout à l'heure je t'ai appelée Mathilde, hein, désolée. Donc oui.
C'est pas grave.
Les Nuits de Strasbourg sont... un texte d'Assia Djebar, donc qu'elle a publié en 1997 chez Actes Sud. Alors, l'histoire se déroule en 1989, comme tu l'as rappelé, et dans la ville de Strasbourg, où justement Assia Djebar met en scène diverses relations, des personnages normalement antagonistes, des personnages qui ont été opposés par leur histoire. Donc, Les Nuits de Strasbourg, c'est le livre des dialogues des corps, comme le souligne Telja dans le texte. C'est aussi une reconquête par des femmes, des corps dont elles ont été dépossédées. La représentation que fait Djebar des corps et la place qu'elle donne à la relation de tous ces couples semble être assez proche de l'idée de Bakhtine selon laquelle seul l'autre peut réaliser l'accomplissement de l'individu. Les personnages de Djebar vont également dans ce texte par la rencontre avec l'autre faire la rencontre de l'être étranger qui est caché ou qui sommeille en eux-mêmes. C'est le cas notamment de Telja qui après chaque nuit au cours des nuits qu'elle va passer avec François va se mettre à se souvenir de la guerre, va être rattrapée par des fantômes qui vont l'assaillir pendant ces moments de fusion corporelle. Donc pendant le séjour pendant les 9 nuits qu'elle va passer à Strasbourg. Alors pourquoi peut-être le choix de cette ville, nous en reviendrons un peu plus tard. Donc pendant les 9 nuits, tout au long du texte, même pas que les 9 nuits parce qu'il y a aussi le couple de Hans et Eve, qui est juive, et Hans, qui est allemand. On a également le couple d'Ali et Jacqueline. On a le couple Irma et Karl. Donc, tous ces couples sont représentés. Enfin, il y a une représentation de l'érotisme que fait Djebar dans ce texte. Et chaque fusion, chaque rencontre corporelle met en lumière ou fait exploser une parole. Une parole qui a été cachée ou qui a été silenciée.
Et Telja, elle choisit de ne vivre cette histoire qu'à Strasbourg, dans la région de son amant.
C'est ça.
Qu'est-ce que Assia Djebar veut nous signifier là? Parce qu'ils sont tous les deux à Paris.
C'est exact. Ils se rencontrent à Paris, effectivement, mais à Paris, il ne se passe rien et elle lui dit qu'elle va le rejoindre dans quelques jours en Alsace. Alors, je pense que le choix que Djebar fait de situer cette œuvre-là en Alsace vient de l'histoire, justement, aussi, parce que l'Alsace a été une région de la France qui a été très impliquée dans les événements d'Algérie, enfin, ce qu'on appelait pendant longtemps les événements d'Algérie.
Ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre d'Algérie.
Qui a été reconnue, voilà, depuis comme étant une guerre. Donc, il y a eu un débarquement des soldats alsaciens en Algérie pour le fameux maintien d'ordre tel que ça a été fait. On a voulu le faire croire aux populations à cette époque-là. Et dans le même temps, à l'inverse, il y a eu aussi l'Alsace a accueilli également une forte population d'immigrés algériens. Donc, ce qui fait que quand Djebar décide, parce que Assia Djebar, dans toute son écriture, on retrouve beaucoup d'histoires. Donc le choix de l'Alsace, c'est aussi pour, je pense, mettre en lien justement ces deux histoires, parce que au final, dans cette ville, ben, on retrouve des personnages qui ont été certes à un moment de l'histoire en situation de conflits, mais qui sont aujourd'hui obligés, et depuis la fin de la guerre, qui sont obligés de cohabiter, qui sont obligés de se rencontrer et même de s'unir, tel qu'on peut le voir dans les textes. Donc Strasbourg aussi, parce que c'est une ville frontalière, c'est une ville des passages, ça revient plusieurs fois dans le texte, et parce que par sa situation géographique, donc elle permet justement la rencontre le contact des sujets ou des personnages ou des personnes simplement qui n'étaient peut-être pas appelées à se rencontrer. Et Strasbourg, par son histoire également, ben, elle a connu beaucoup. Et ça revient aussi, elle a une place, je pense qu'elle est même personnifiée cette ville parce que le texte s'ouvre sur un prologue qui rappelle le dépeuplement de la ville à l'approche des soldats allemands pendant la Seconde Guerre. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça qu'Assia Djebar, parce qu'elle était dans le personnage, enfin, Telja, par exemple, se met sur les traces des immigrés algériens qui avaient été enroulés de force dans cette guerre aussi de la France, enfin, qui opposait à l'époque la France et l'Allemagne. Donc, plutôt dans un souci, moi, je pense, d'apaisement, parce qu'en 1997, il faut savoir qu'en Algérie, il y a aussi la décennie noire. Et il y a beaucoup de populations algériennes à ce moment-là aussi qui se retrouvent, qui font encore le... Il y a beaucoup de populations algériennes qui migrent à nouveau vers la France, par exemple, parce que il y a 1987, c'est l'année où, pendant la décennie noire, il y a eu beaucoup, beaucoup de tueries, on va dire. Il y a eu au moins 40 000 victimes pendant cette guerre. Donc voilà, pour moi l'Alsace, elle choisit de situer cette histoire en Alsace, parce que par rapport à l'histoire, l'Alsace et l'Algérie ont un passé qui les unit et un présent aussi. Et d'ailleurs, il y a une belle formule que crée Telja et François vers la fin du texte, un beau vocable, Alsagérie, justement pour unir ces deux peuples qui se sont rencontrés dans des moments un peu tragiques de l'histoire. Voilà.
Merci Stévelia. On va vous lire un extrait. Le titre, c'est Première nuit, et donc c'est issu des Nuits de Strasbourg de Djebar.
Alors, première nuit. temps arrêté, une heure, deux heures pleines, dans le silence, les souffles, la fenêtre entrouverte. Tu entends la cloche ?
Je la reconnais, celle de Saint-Pierre-le-Jeune.
Pourquoi est-ce que je parle bas ? Et comme avec de la crainte, je tremble.
Tu as froid ?
Ce n'est pas le froid, une hésitation. Je suis nue dans tes bras et enfin, je te dis, tu. Il ne répond pas, l'homme. Ses doigts tâtent le visage de la parleuse. On palpe les lèvres, l'une après l'une. Ce n'est pas le froid. Elle respire longuement sous ses doigts à lui. Elle trouve en un éclair la vérité. Je vis un commencement. Elle respire, soupire comme si c'était du bien-être ou un soulagement. Tu es français. Jamais. Il attend l'homme. Elle dirait encore, même à présent, elle penserait l'étranger. Il tend sa pomme confiante qui recouvre l'une des épaules de celle qui a parlé. Qui se tait, qui cherche. Les doigts creusés descendant au sein en frôlent le galbe. Elle étale son dos sur une partie du torse masculin. Elle respire profondément, creuse ses omoplates sur ses muscles à lui. Elle reprend. Je suis née avant que je ne finisse la guerre. Avant que ne finisse la guerre, pardon. 3 ans avant.
La guerre d'Algérie, répond-il dans son sillage. Ses mains tâtonnent, la serrent à nouveau, la lâchent. Elle reste recroquevillée en partie sur lui, pèse sur lui de tout son poids et chuchote.
Où étais-tu alors ? Sa question est impérieuse.
La guerre chez toi ? Je ne me trouvais ni en Alsace ni en Algérie. Il a comme une absence, il ajoute, très vite, avec un accent amer qui la surprend. Ni même en France.
Elle se laisse caresser jusqu'à la taille. Son torse surgit hors des draps. Reçoit un rayon de lune inopiné. Elle s'étonne. Tu es mon amant et tu es français. Il y a 10 ans, quand j'arrivais à Alger pour aller à l'université, une telle intimité m'aurait paru invraisemblable. Elle rêve. Tu aurais pu débarquer là-bas coopérant aux touristes. Je t'aurais rencontré chez des amis, à Ancourt, où je ne t'aurais pas vu vraiment. Elle rit, semble se trouver une excuse de mauvaise foi. D'ailleurs, à cette époque, tu n'étais pas un homme libre. Tu ne m'aurais pas vu, toi non plus. Elle a un mouvement heurté du bras. Elle se blottit sous le drap. Machinalement, il la cherche, la serre dans une étreinte. Il rêve dans le noir comme s'il n'avait pas entendu sa dernière répartie.
Non, se souvient-il à nouveau. Je n'ai pas fait la guerre d'Algérie. Une chance, sans doute, bien que ma classe fût celle de 1956 ou de 1957. En 1960, je me trouvais à Munich. 8 heures par jour, j'étais plongée dans les archives de la ville. Ensuite, ce fut les États-Unis. Quelques mois à New York, puis presque une année à Chicago. Je cherchais. Il s'arrête, ses bras, encerclant la menthe, s'immobilise.
Munich, murmure-t-elle. Le bien-être de voyager, pelotonné entre lui, elle respire son odeur. Un cousin émigré qui, de Lorraine, avait fui en Allemagne pendant notre guerre, est revenu de Munich, justement. Je me souviens, il débarqua un beau jour au village avec une épouse allemande et 3 ou 4 enfants. Je n'avais pas 10 ans. L'Allemande, les premiers jours, gardait un visage apeuré. Ensuite, elle s'est mise à entrer de maison en maison. Les femmes lui faisaient fête. Elles l'ont habillée de nos toges anciennes. Chaque jour, parée dans une robe de cérémonie, je me souviens comme hier. Elle a ri, puis la chambre s'est emplie d'un silence liquide. Au-dessus de leur tête, une fontaine invisible allait, semble-t-il, s'égoutter, se dit la femme dans les bras de... Pas l'étranger, pas le français, non, dans les bras de l'homme. Lui, absent et présent, lui et sa peau que mes doigts parcourent rêveusement, car ce sont eux, mes doigts se mouvant, qui rêvent. Elle se parle à elle-même, l'amante, elle qui l'a enlacée. Elle ferme les yeux, se concentre intensément. Plus tard, elle pensera à cet instant de la première nuit. Elle aime tant regarder avec le bout de ses doigts. Ainsi se rappellera-t-elle ce moment précis où leurs corps enchevêtrés se tendent, s'allongent en travers du lit. Je fais ta connaissance encore et encore. Sa voix est fervente, sa bouche par petits coups lapés descend le long du flanc de l'amant. Sa jambe le chevauche à moitié, elle glisse. S'accroupit entre ses cuisses, lui caresse les aines. Il se mêle, il la pénètre à nouveau. Elle regarde cette fois, les yeux ouverts. L'ombre s'est éclaircie.
Radio Galère 88.4, émission Le Livre Ouvert. Nous parlons du corps et de l'altérité dans la littérature de voyage. Donc Mathilde, bonjour.
Bonjour Sabine.
Tu écris une thèse en littérature sur la représentation du corps de l'autre dans plusieurs récits de voyage des 16 et 17e siècles, de plusieurs régions du monde, puisque ton corpus traverse l'Amérique du Nord et du Sud, la Perse, l'Inde et l'Empire ottoman. Tu vas nous parler de la figure du Brésilien chez Jean de Léry. Alors Jean de Léry, il est né en France en 1536 et mort en Suisse en 1613. C'est un voyageur protestant ayant résidé au Brésil en 1557 qui raconte son voyage dans « Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil » sorti en 1578. Puis cette figure du Brésilien, tu vas nous en reparler aussi dans « Voyage en Nouvelle-France » datant de 1616 de Marc Lescarbot. Alors cet auteur est né dans le nord de la France à Vervins en 1570, il est mort en 1641. Il fut avocat et missionnaire catholique parti en Acadie, qui est une région de l'actuel Canada. Et il y est parti de juillet 1606 à juillet 1607. Est-ce que c'est bien ça ?
Alors oui, par contre, pour la date de première édition du récit de l'escarbot, c'est 1609 hein, et non pas 1616. Mais voilà, c'est un petit détail.
Non, mais merci de me corriger.
Voilà. Donc, merci Sabine pour cette présentation. Donc, effectivement, je vais m'intéresser à une figure de l'altérité et pas n'importe laquelle, hein, bien que je m'intéresse aussi à l'altérité orientale ou même l'altérité européenne. Là, je vais parler aujourd'hui de l'altérité radicale qu'incarne l'Amérindien. L'Indien d'Amérique, donc, à travers le récit de deux auteurs, Jean de Léry et Marc Lescarbot, qui sont presque contemporains. Ils écrivent ils voyagent à 50 ans d'intervalle, mais Jean de Léry, lui, est protestant et Marc Lescarbot catholique. Et on va voir aussi ce que ça change dans la représentation de cette altérité. Et je vais commencer par vous lire donc ces portraits croisés pour qu'ensuite on puisse éventuellement réagir et en discuter. Je commence par le texte de Jean de Léry. Je vous préviens qu'au niveau de la syntaxe, ça peut être un petit peu parfois exotique, hein, parce que c'est une langue ancienne. Donc au besoin, j'expliquerai quelque chose. Donc là, nous sommes au chapitre 8 de son récit, qui s'intitule « Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil », dont la première édition date de 1578. Et dans ce chapitre 8, il entreprend de décrire physiquement les Amérindiens, et en particulier les Indiens Tupis, la tribu des Tupinambous, parmi laquelle il va vivre pendant plusieurs mois. Ayant jusqu'ici récité tant ce que nous vîmes sur mer en allant en la terre du Brésil que, comme toutes choses, passèrent en l'île et fort de Coligny, je veux aussi discourir tant sur ce que j'ai observé touchant la façon de vivre des sauvages que des autres choses singulières et inconnues par-de-ça. Par-de-ça désignant en fait l'Europe et par-delà au contraire désigne l'Amérique. En premier lieu, les sauvages de l'Amérique, habitant en la terre du Brésil, nommés Tupinambous, avec lesquels j'ai demeuré et fréquenté familièrement environ un an, n'étant point plus grands, plus gros ou plus petits de stature que nous sommes en Europe, n'ont le corps ni monstrueux ni prodigieux à notre égard. Bien sont-ils plus forts, plus robustes et replets, plus dispos, moins sujets à la maladie, et même il n'y a presque point de boiteux, de borgnes, contrefaits ni maléficiés entre eux. Davantage, combien que plusieurs parviennent jusqu'à l'âge de 100 ou 620 ans, c'est-à-dire 120 ans, peu y en a qui en leur vieillesse aient les cheveux ni blancs ni gris. Chose qui pour certains montre non seulement le bon air et bonne température de leur pays, auquel, comme j'ai dit ailleurs, sans gelée ni grande froidure, les bois, herbes et champs sont toujours verdoyants, mais aussi, eux tous buvant vraiment à la fontaine de Jouvence, le peu de soins et de soucis qu'ils ont des choses en ce monde. Léry explique ensuite qu'ils sont exempts des maux de nos sociétés, des passions qui, je cite, « nous rongent les os, sucent la moelle, atténuent le corps et consument l'esprit. Bref, nous empoisonnent et font mourir par-de-ça devant nos jours. À savoir en la défiance, en l'avarice qui en procède, au procès et brouillerie, en l'envie et ambition, aussi rien de tout cela ne les tourmente, moins les domine et les passionne. » Quant à leur couleur naturelle, attendu la région chaude où ils habitent, n'étant pas autrement noirs, ils sont seulement basanés, comme vous diriez des Espagnols ou Provençaux. Au reste, tant hommes, femmes qu'enfants, non seulement sans cacher aucune partie de leur corps, mais aussi sans montrer aucun signe d'en avoir honte ni vergogne, demeurent et vont coutumièrement aussi nus qu'ils sortent du ventre de leur mère. Et cependant, tant s'en faut comme aucun pense, et d'autres le veulent faire accroire, qu'ils soient velus ni couverts de leurs poils, qu'au contraire, n'étant point naturellement pelus que nous sommes en ce pays par-de-ça, encore sitôt que le poil croît sur eux, il est arraché avec les ongles ou... depuis que les chrétiens les fréquentent avec des pincettes qu'ils leur donnent. Hein, donc heureusement que les chrétiens sont là pour les civiliser un petit peu. Donc juste un petit commentaire sur ce texte. Jean de Léry se situe dans un contexte. À l'époque, on pensait que les pays inconnus étaient peuplés de monstres, mais ici, Léry dément la monstruosité des Indiens. Ils ne sont pas mal formés, ils ne sont pas prodigieux. Hein, le prodige, à l'époque, est synonyme de monstre. Jean Séard, notamment, a écrit un livre qui s'appelle « Monstres et prodiges » et qui explique cela. Par ailleurs, les Indiens semblent normaux, hein, leur couleur est comparée à celle des Espagnols et des Provençaux, c'est-à-dire qu'ils n'appartiendraient pas à une race différente, hein, avec, je mets ça entre guillemets évidemment. C'est-à-dire que l'Indien apparaît comme une figure identificatoire, comme un autre soi. Et Léry, dans sa description, possède à une véritable idéalisation des Amérindiens, qui serait une sorte de surhomme, hein, vivant jusqu'à 120 ans, épargné de tous les vices et de tous les maux européens. Et Léry ainsi donne la matière à ce qui fera naître au XVIIIe siècle le mythe du bon sauvage, comme en témoigne notamment Diderot dans le supplément Voyage de Bougainville. Non seulement le sauvage est beau et fort, mais cette santé physique est signe d'une perfection morale qui ne serait pas entachée par la chute du péché originel. Et c'est ainsi que leur nudité revêt une dimension symbolique. C'est une nudité édénique d'avant le péché originel. Et bien entendu, d'autres voyageurs analyseront cette nudité comme le signe d'une déchéance, hein, d'un peuple privé de révélation. Mais Léry, ici, marche dans les pas de Christophe Colomb qui pensait, en découvrant l'Amérique, découvrir le paradis. On pensait encore au XVIe siècle que le paradis était situé sur Terre, dans une terre non encore découverte. Et pour faire contrepoint à ce premier texte, je vais lire un extrait du récit de Marc Lescarbot, le deuxième voyageur que Sabine a présenté, qui voyage donc 50 ans après Jean de Léry, en Amérique du Nord. Donc il y a aussi une différence de destination géographique. Et bien que résidant en Acadie et bien que fréquentant les Indiens du Nord de l'Amérique, Lescarbot consacre un chapitre aux ornements extérieurs du corps des Indiens et ici ne peut faire l'économie de la description des Brésiliens qui seraient d'après lui les plus friands de ces ornements. Bien que, comme nous avons dit, les hommes ne soient tant soucieux des matachias, c'est-à-dire ornements, que les femmes, toutefois ceux du Brésil, n'ayant cure de vêtements, prennent plaisir à se parer et bigarrer de plumes d'oiseaux. Et les découpent en menus comme chair à pâté, lesquels ils teignent en rouge avec leur bois de Brésil, puis s'étant frotté le corps avec une certaine gomme qui leur sert de colle, ils se couvrent de ces plumes et font un habit tout d'une venue à la pantalonne. Pantalon, qui est un personnage de la Commedia dell'arte. Ce qui a fait croire, se dit Jean de Léry en son Histoire de l'Amérique, aux premiers qui sont allés par-delà, que les hommes qu'on appelle sauvages fussent velus, ce qui n'est point. Outre ce que nous avons dit, les Brésiliens font encore des frontaux de plumes qu'ils lient et arrangent de toutes couleurs, rassemblant ce frontaux, quant à la façon, à ces raquettes ou ratepenades dont les dames usent par-de-ça. Ratepenade désignant une forme de perruque à la mode à l'époque. L'invention desquelles elle semble avoir apprise de ces sauvages. Quant à ceux de notre Nouvelle-France, et jour entre eux solennel et de réjouissance, quand ils vont à la guerre, ils ont à l'entour de la tête comme une couronne faite de longs poils d'élan peints en rouge collé ou autrement attaché à une bande de cuir large de 3 doigts, telle que le capitaine Jean Cartier dit avoir vu au roi. Mais ils n'usent point tant de plumasserie que les Brésiliens, lesquels en font des robes, bonnets, bracelets, ceintures, éparements, des jours et des rondaches sur les reins de toutes les couleurs, qui seraient plutôt ennuyeuses que délectables à décrire, étant aisé à chacun de suppléer à cela et s'imaginer ce que c'est. Donc ici, Marc Lescarbot oppose les Brésiliens, qui ne sont pas du tout du côté de la nudité édénique, mais du plaisir coupable des ornements, aux Indiens du Nord, hein, qui seraient plus sobres. Et l'accumulation du type d'ornement que décrit l'auteur, hein, les plumasseries, ceintures, bracelets de toutes les couleurs, indique bien la condamnation d'un excès contraire à l'éthique de la sobriété que promeut le missionnaire catholique. Et on peut remarquer l'anecdote de la perruque, hein, qui serait une forme d'appropriation culturelle, finalement, de la part de la France, d'un ornement brésilien.
Merci Mathilde pour cette belle présentation de ces deux œuvres. Alors moi j'ai une question pour toi, c'est concernant cette dénomination de sauvage. Est-ce que tu pourrais dire un mot sur ce terme et peut-être sur le mode de cohabitation qu'ont ces voyageurs avec les Indiens. Donc ça c'est peut-être pour Jean de Léry.
Oui, alors... La dénomination de sauvage, elle est vraiment très fréquente dans les textes, elle est usuelle, elle est de rigueur, et de ce fait, elle est plutôt neutre, hein, contrairement au terme de barbare qui est connoté péjorativement. Mais l'appellation de sauvage est vraiment de rigueur dans les textes du XVIe et XVIIe siècle, hein, et même encore après. Et ce n'est que progressivement qu'elle se charge d'une dimension péjorative. Mais à l'époque de Jean de Léry et de Marc Lescarbot, c'est plutôt une dénomination neutre. Et concernant le mode de cohabitation des auteurs, tous les deux, hein, Léry et Lescarbot, vont venir dans le cadre d'une mission, donc Léry une mission catholique et Lescarbot une mission catholique. Non, pardon, Léry est protestant, voilà, et Lescarbot catholique. Donc ils vivent dans des, malgré tout dans des structures indépendantes de celles des Indiens. Mais pour ce qui est de Léry, les choses sont différentes parce que donc il embarque en tant que protestant. Mais sur place, le gouverneur de la colonie, Villegagnon, va se révolter, va révéler son catholicisme et trahit son équipage. Et à la suite de cette crise, de cette révolte, Léry va vivre parmi les sauvages pendant plusieurs mois dans une immersion totale.
Et est-ce qu'on peut dire que ça change un peu sa vie ? Est-ce que son mode de pensée ?
Il a vraiment une, du fait de cette approche immersive, il a une grande ouverture d'esprit une absence de jugement, enfin du moins un jugement beaucoup, beaucoup plus faible que par exemple un de ses contemporains, Thevet, qui était parti aussi dans cette colonie, qui n'y avait passé que 2 mois et qui est beaucoup plus sévère hein, dans sa représentation des Indiens.
D'accord, parce que ce livre, justement, m'a fait penser à Le Clésio, hein, qui a partagé pendant 4 ans, de 1970 à 1974, donc je fais un gros pas dans le temps, mais la vie des Indiens de la forêt panaméenne, et qui raconte justement dans la fête chantée. Et cette expérience, dit-il, a bouleversé sa vie. Donc c'est, voilà, il dit que ça lui a même bouleversé ses idées sur le monde, sur l'art, sa façon d'être avec les autres, de marcher, de manger, d'aimer, de dormir, et jusqu'à ses rêves. Voilà, donc moi, ce livre, en tout cas, m'a évoqué ça. Et voilà.
Disons que ce qu'il y a aussi, c'est que Jean de Léry écrit son récit 20 ans après avoir voyagé. Et entre-temps, il s'est passé les guerres de religion. Et donc, souvent, les pratiques des Indiens, notamment les pratiques anthropophages, sont relativisées par rapport à une barbarie qu'il juge pire encore, hein, celle des catholiques pendant les guerres de religion.
Concernant l'escargot qui oppose les Indiens du Nord qui eux ont l'air vertueux et les Indiens du Sud qui ont l'air d'être des paillards, est-ce qu'on peut parler d'un imaginaire climatique ?
Oui, alors c'est-à-dire que à l'époque la représentation du monde est vraiment modélisée par la théorie des climats qui a contribué à diffuser Jean Bodin, et c'est-à-dire que selon l'endroit où on vit sur le globe, cela change le caractère, même le physique, hein, cela détermine la couleur de peau, mais aussi les mœurs. Et donc, la fracture nord-sud qui est déjà observée en Europe, opposant les peuples méridionaux qui seraient plus lascifs, impulsifs, aux peuples du nord plus froids et se contrôlant davantage, hein, cette fracture est bel et bien transférée en Amérique, comme le texte de l'escargot a pu nous le montrer.
Merci Mathilde, merci beaucoup. Radio Galère 88.4, émission Le Livre Ouvert, et nous parlons du corps et de l'altérité dans la littérature de voyage. Nous venons d'écouter Les Sauvages dans l'opéra de Rameau, Les Indes Galantes qui datent de 1735. Alors nous allons faire un bond temporel avec Silvio, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu travailles sur la réécriture des mythes dans le roman contemporain, et plus précisément sur le thème de la mort et de la renaissance des dieux dans les littératures amérindiennes, africaines et polynésiennes.
Exactement.
Tu vas nous parler d'un livre de Tommy Orange, qui ici n'est plus ici, qui est un roman états-unien sorti en France à la rentrée littéraire. Et il s'agit du premier roman de l'auteur, qui se définit comme membre du peuple Cheyenne et qui s'intéresse à la condition des Amérindiens aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'être un Amérindien lorsqu'on vit en ville dans la société actuelle? C'est la question centrale que pose ce roman. Alors, en préparant l'émission, Silvio, quand on a évoqué la question du corps et de l'altérité, tu as tout de suite voulu parler de ce roman. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
Oui, alors, mon idée, c'était de donner une sorte de droit de réponse à quelques siècles d'écart aux sauvages, justement, parce qu'on est habitué souvent dans les récits de voyageurs dont parlait Mathilde, on a des dialogues plus ou moins fictifs avec des sauvages, on retrouve après ça chez Diderot aussi, mais les sauvages parlent toujours à travers la bouche des voyageurs, éventuellement des colons. Et depuis quelques décennies, on a une littérature qui est écrite par les Amérindiens et dans laquelle ils ont l'occasion de se définir eux-mêmes. Alors du coup, le roman de Tommy Orange, vraiment la question centrale, c'est qu'est-ce que c'est être Amérindien aujourd'hui ? Et surtout être Amérindien quand on vit en ville, quand on n'a connu que ça, et que les plumes et les tipis et les grandes plaines de l'Oklahoma, on l'a vu qu'à la télé, quoi. Alors, il y a deux réponses traditionnelles à cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire être Amérindien ? Il y a la réponse, c'est avoir du sang amérindien. Alors ça, c'est la réponse de l'État. Aux États-Unis, on aime bien employer les classifications raciales, faire des quotas de sang pour savoir si vous avez le droit de vous déclarer amérindien ou pas. Alors la question se pose quand on est métisse, puis quand on a seulement un quart de sang, un huitième, à partir de quand on n'est plus amérindien? Bon, ça pose tout un tas de problèmes. Et ça, notamment le fait que c'est l'État central, et donc celui des colons, qui définit qui est amérindien ou pas. Donc ça convient pas beaucoup aux amérindiens en question. Et il y a une deuxième définition traditionnelle de cette identité, c'est se sentir amérindien. C'est se sentir dépositaire d'une histoire, d'une langue, d'une culture. Mais voilà, encore une fois, quand on vit en ville en 2019, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on n'a pas envie de se sentir amérindien et que pourtant on se retrouve assigné à cette identité-là, est-ce qu'on l'est ? Alors du coup, la réponse que donne le roman, en fait, il y a 12 réponses différentes, parce qu'il y a 12 personnages différents. Le roman est construit un peu en étoile. Il y a 12 personnages qui ont chacun une identité amérindienne relativement problématique. Il y a des métis, il y a des gens qui ont été adoptés, il y a des gens qui sont des militants de longue date des droits des Amérindiens et des minorités. Il y a tout un tas de personnages, et en fait, tout leur parcours vont se croiser et les faire converger vers un grand powwow qui se tient à Auckland. Alors je rappelle un powwow, enfin je le dis, un powwow c'est une fête religieuse. Au départ c'est une fête religieuse ancestrale, et aujourd'hui ça c'est devenu une sorte de festival folklorique. Souvent on vient de plusieurs états, les gens se rassemblent, mais ça ressemble, disons pour moitié à une fête traditionnelle avec des danses, et puis pour moitié à un concours d'artisanat et un grand marché, quoi. Donc c'est quelque chose d'un peu spécial. Et le point commun que tous ces personnages ont, donc, c'est d'avoir cette identité amérindienne, qu'ils le veuillent ou pas. C'est une identité qui est problématique, mais elle est incontournable parce qu'en fait elle est inscrite dans leur corps. Ils arrivent pas à s'en, ils peuvent pas s'en débarrasser quoi qu'ils fassent. Et on voit en suivant ces différents personnages qu'il y a deux façons, ils ont deux façons de se rattacher à cette étiquette-là, à ce fait d'être amérindien. Il y a une identité qui est visible, on pourrait dire ethnique, qui est impossible à nier parce qu'à chaque fois, on vous la renvoie. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui aimeraient ne pas être amérindiens, mais bon, ils y peuvent rien. Et on sait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus tendance a employé l'expression « racisé ». Et elle est plutôt juste parce qu'elle renvoie au fait que c'est pas les personnes racisées qui se définissent, c'est le regard qu'on porte sur elles. Et ben là, on est exactement là-dedans. Mais par la littérature, c'est là que le roman est intéressant, celui-là et d'autres, mais celui-là, il est particulièrement intéressant pour ça, c'est que ici, c'est les Amérindiens qui peuvent avoir l'occasion de se définir par eux-mêmes. Et aussi, du coup, d'aborder un certain nombre de problèmes qui sont liés à cette identité. Parce que l'identité d'Amérindien, bah, c'est une identité qui est sociale, qui est construite, et qui est parfois très lourde à porter, parce que naître Amérindien aujourd'hui aux États-Unis, c'est naître dans la communauté qui a le plus haut taux d'alcoolisme, le plus haut taux d'échec scolaire, le plus haut taux d'obésité et le plus haut taux de délinquance. Donc ça fait quand même beaucoup. Et il y a un certain nombre de ces personnages qui sont comme ça marqués par ces faits sociaux, par cette violence économique et sociale. Par exemple, il y a un des premiers personnages du roman qui est atteint d'un syndrome d'alcoolisme fœtal. Donc sa mère buvait pendant sa grossesse, et du coup il se retrouve à ne pas pouvoir se débarrasser de ça, cette espèce d'idée que les Indiens maintenant sont tous alcooliques, qui est une idée assez un cliché assez répandu. Il peut pas s'en débarrasser parce que tous ceux qui le voient ont cette idée là de lui. Donc du coup, dans le roman, chaque personnage a eu une réponse possible à cette question de l'identité des Amérindiens. C'est une définition possible de ce que c'est être amérindien aujourd'hui. Voilà, c'est tout l'intérêt du roman.
Bien, merci. Alors, il y a quelque temps, hein, tu étais venu dans une émission du Livre Ouvert, et puis tu nous avais présenté un autre roman amérindien qui s'appelle La Maison de l'Aube. Et voilà, est-ce qu'il y a une différence dans l'approche de la question du corps et de l'identité dans ces deux romans, dans ces deux romanciers?
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que donc la Maison de l'Aube, dont j'avais parlé ici il y a quelque temps, c'est un des premiers grands textes du roman amérindien. Ça date des années 70. Et à ce moment-là, l'auteur Scott Momaday, il impose un peu, il impose un schéma narratif de pour être amérindien, il faut revenir sur sa terre natale, il faut revenir dans la réserve, il faut revenir sur la terre des ancêtres et se la réapproprier. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que quelques décennies plus tard, avec donc Tommy Orange, c'est son premier roman, il a moins de 40 ans, donc c'est une toute nouvelle génération de romanciers amérindiens, et lui, sa réponse, elle est différente. Sa réponse, c'est il ne faut pas chercher une terre ancestrale ou revenir, parce qu'au départ, toute la terre était à nous. Toute la terre était à nous, donc notre terre, et c'est ça l'explication du titre du roman, soit toute la terre est à nous, soit on est chez nous nulle part. Mais il n'y a pas d'alternative entre les deux. C'est-à-dire que toute la terre des États-Unis, toute la terre d'Amérique du Nord a été volée aux Indiens. Et donc tout le problème vient de là. Et le titre du roman, Ici n'est plus ici, il est là pour signaler cette espèce d'impossibilité de vivre vraiment sur place, et en même temps d'impossibilité de vivre ailleurs. Ils ne peuvent pas arrêter d'être amérindiens et ils ne peuvent pas arrêter de vivre dans le monde contemporain non plus. Donc il faut trouver un juste milieu entre les deux. Et c'est ce qu'essaye de faire un peu le roman à travers plusieurs réponses différentes, et notamment en revendiquant cette identité nouvelle d'Indien urbain. Alors il a écrit un article qui est paru en France au début de l'année, qui s'appelle Macadam Indians, dans la revue America, qui est très intéressante et qui fait l'histoire des peuples amérindiens de son point de vue à lui, et qui est très intéressante et qui peut compléter un petit peu aussi le livre. Voilà.
Merci Silvio pour cette présentation. Alors tu vas nous lire un extrait.
Ouais, je vous lis un petit passage du roman qui illustre bien ce problème d'appartenance. Là, c'est un personnage qui est métis et qui raconte donc les moments passés avec son père qui est amérindien. Je vous lis ça. Ton père te racontait qu'il n'avait pas pu faire de basket à l'université en Oklahoma parce qu'il était indien. En 1963, il n'en fallait pas plus. Les terrains et les bars étaient interdits aux Indiens et aux chiens, en dehors des réserves. Ton père n'abordait presque jamais le sujet. Être Indien ou grandir sur une réserve, ni même ce qu'il éprouvait maintenant qu'il était devenu un Indien des villes patentées. Sauf que quelques rares fois, quand il en avait envie. Sans raison. Tu allais louer un film en empruntant son pick-up Ford rouge. Tu écoutais les cassettes de chants de la Native American Church de ton père. le son grésillant des hochets de cérémonie et des tambours d'eau. Il aimait bien mettre le volume à plein tube. Tu ne supportais pas qu'il le mette si fort. Que ton père soit si indien. Tu lui demandais si tu pouvais changer. Tu le forçais à arrêter d'écouter sa musique. Tu mettais du rap ou du R&B. Mais lui essayait de danser dessus. Il avançait ses grosses lèvres d'indien pour t'embarrasser, levait la main à plat et battait l'air en rythme juste pour t'embêter. C'est là que tu éteignais la musique pour de bon. Et c'est à ce moment-là que ton père te racontait parfois une histoire de son enfance. Quand il cueillait le coton avec ses grands-parents pour 10 cents par jour. Ou quand un hibou perché sur un arbre avait jeté des cailloux sur lui et ses copains. Ou que son arrière-grand-mère avait scindé en deux une tornade par le pouvoir de la prière. Le fardeau que tu portes vient du fait que tu es né et as grandi à Auckland. Un fardeau de béton, un vrai bloc, lourd d'un seul côté, la moitié qui n'est pas blanche. Du côté de ta mère et de ton côté blanc, il y en a à la fois trop et pas assez pour savoir quoi en faire. Tu viens d'un peuple qui a volé, encore et encore et encore, et d'un peuple qui a été volé. Tu es les deux et aucun des deux. Quand tu prenais un bain, tu regardais tes bras cuivrés sur tes jambes blanches dans l'eau et tu te demandais comment ils pouvaient être attachés au même corps dans une même baignoire.
The virus took on many shapes. The bear, the elk, the antelope, the elephant, the deer, the mineral, the iron, the copper, the coltan, the rubber, the coffee, the cotton, the sugar. The people, the people, the people. The germ traveled faster than the bullet. They harvest the mountainside, protect the crops, herd the cattle. The people, the people, the people, the women and children were separated from the men. They're dividing us according to the regional filters of their minds. The violence of arrogance crawls into the air, nestles into the geospatial cortex. We are not a conquered people.
Radio Galère 88.4, émission Le Livre Ouvert. Alors, on vient d'écouter une musique étrange, Silvio.
Oui, c'est un groupe canadien qui s'appelle A Tribe Called Red, donc la tribu rouge, une tribu appelée rouge, et qui mêle chants traditionnels et musique électro, hip-hop, et c'est un des personnages du roman écoute ça, justement, et donc c'est une sorte de bande-son qui revient plusieurs fois dans le roman, donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous passer ça.
Bien, merci en tout cas de cette belle présentation du livre Ici n'est plus ici de Tommy Orange. Et moi, je vais finir par vous parler de Adonis, hein, ce qui est né en Syrie en 1930, qui est exilé au Liban et qui a choisi son nom de poète, imposant ainsi en terre d'islam le reflet d'un dieu païen. Alors Adonis, hein, c'est le dieu grec de l'amour et de la beauté. Et j'ai choisi de vous lire un extrait de « Mon corps et mon pays ». Poème donc d'Adonis qui aborde le thème de l'identité poétique et humaine. Mon corps et mon pays. Dans mes veines, dans mes cendres vient l'éveil. Je me lève. Le monde est une maison autour de mon visage. Chaque fleur est poème. Je crie au fond d'un corridor, d'une citadelle de cendres. Je suis devenue blessure au corps de la citadelle. Nuages enlaçant la terrasse et l'auvent. Je crie du fond d'un corridor. Je hais la terre pareille à une perle jetée dans un trou de cristal. Je rêve aux frontières, aux pays sans fin comme la mer, et voués à l'amour. Le badigeon de toute barrière et servitude, lèpre solaire et mutisme, pesanteur froide dans le corps de l'homme. Tu m'as posé une question. Tu me demandes quel est mon pays ? Mon corps est mon pays. Avec mes échelles, j'ai tissé des ailes à la patience. J'ai enlacé la source, la perle blanche et les miroirs. Ô vous, les arbres des jours, de quel soleil vous êtes-vous vêtus sous mon tropique ? Ô vous, les arbres du vertige ? Et j'ai dit, voici notre feu, voici l'emblème de la fraternité. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, chères auditrices et chers auditeurs. Merci à Stevelia, à Mathilde et à Silvio pour nous avoir éclairés sur leurs œuvres peu ou pas connues. Merci à Sidi pour la technique. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année et vous retrouve le jeudi 2 janvier 2020 avec la poétesse Laura Vasquez. Au revoir.
Eya o, 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 e